Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur, voici ma vie.
Prépare ton cœur, hein.
Pour faire ta volonté. Oh Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Ta volonté.
Seigneur, au nom de Jésus, je remets au devant de ta face les cœurs de ceux qui m'écoutent en ce moment, dans cet endroit, dans leur maison, dans leur voiture, par les radios. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, que nos cœurs reçoivent la visitation de ton esprit et qu'il nous soit donné à chacun d'entre nous d'avoir la révélation, la compréhension des mystères de ton royaume. Merci Éternel, parce que par cet enseignement, tu donnes aux simples d'avoir l'intelligence, la sagesse, afin de mener une vie épanouie, réussie, abondante, victorieuse sur cette terre au nom de Jésus. Et que les paroles prononcées par Jésus sur la croix, disant « Tout est accompli », soient vraies, soient palpables, soient démontrées à tout égard dans nos vies. Béni sois-tu pour ton œuvre. Tu as commencé en nous une œuvre merveilleuse, que toi seul sauras parfaire, afin que ton nom soit béni. Je me lève contre toutes les puissances des ténèbres, contre toute hauteur et tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Dieu. J'amène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit exalté, que ta gloire soit démontrée, que ta puissance soit expérimentée et que la victoire soit célébrée dans chacune de nos vies. Par ton œuvre réelle, au nom de Jésus, nous avons prié. Celui qui croit, dise Amen. Une deuxième fois, Amen. Et une dernière fois, Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous continuons notre série sur La loi de reconnaissance, la reconnaissance, en fait, renommée les lois spirituelles. Parce que cet enseignement dégage cinq lois fondamentales. La première, la loi de la révélation. La deuxième, la loi de la reconnaissance. La troisième, la loi de la découverte. La quatrième, la loi de l'identification. La cinquième, la loi de la perception. Vous savez, cette série te permettra, cet enseignement, d'opérer dans une autre dimension de la sagesse. Une autre dimension. Comme la Bible le dit dans Proverbe 3, verset 19, c'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre et c'est par l'intelligence qu'il soutient les cieux. Par la sagesse, il a fondé la terre, par l'intelligence, il soutient les cieux. Il est important, si nous voulons mener une vie agréable, d'avoir de la sagesse. La sagesse est vitale. La sagesse est quelque chose qui devra se désirer, qui devra se rechercher avec une entière passion. Je recherche la sagesse, je recherche l'intelligence, je la poursuis comme mon trésor. J'ai envie de l'acquérir. C'est le désir ardent de mon cœur. La sagesse de Dieu. Nous avons parlé de l'ignorance d'Ève et comment reconnaître Dieu, notre Créateur. Ensuite, nous sommes allés plus loin. Nous avons parlé de reconnaître le chemin qui mène à Dieu. Et après, nous avons parlé de reconnaître son appel, parce qu'une fois à Dieu, on est appelé. Et ce matin, je voudrais parler de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Genèse 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dieu, le Créateur, qui a créé toutes choses par sa sagesse, n'a rien créé sans la présence du Saint-Esprit. La Bible nous dit clairement dans Genèse 2, l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est après la mouvance de l'Esprit de Dieu que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce monde est créé avec la présence et l'assistance du Saint-Esprit a connu, comme on l'a vu à l'enseignement passé, un désastre par le manque d'intelligence et de sagesse que Ève a relâché dans le jardin d'Éden et ce monde est allé au chaos. Pour recommencer ce monde, pour ramener le monde à l'état où il était, la Bible dit, Dieu, rendant visite à Marie par l'ange, lui dit, le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. En quelque sorte, Dieu n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc, je veux dire, indispensable à la vie que nous menons sur terre. Parce que Genèse 1, verset 26 dit, Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que nous devons agir comme Dieu. Notre manière d'agir devra ressembler à celle de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens agissent hors de la ressemblance des méthodes de Dieu. Nous devons apprendre à utiliser les méthodes que Dieu a utilisées, puisque nous sommes son image et sa ressemblance. Et la méthode de Dieu, c'est « je ne fais rien sans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit lui-même est Dieu ». Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, comment donc, en tant qu'enfant de Dieu sur la terre, reconnaître la voix du Saint-Esprit? Premièrement, je voudrais te faire savoir qu'il faudra bien que tu acceptes que tu as été créé dans le ciel, manifesté sur la terre, et que le désir de Dieu, c'est que tu t'épanouisses et sois heureux sur cette terre. Dieu t'a amené sur la terre pour mener une vie épanouie et pour accomplir ses desseins sur la terre. Donc, la terre est l'endroit où tu devras, avant le retour au ciel, expérimenter la gloire de Dieu. La victoire, le succès, l'abondance, la faveur, la force, la puissance, c'est sur la terre. Au ciel, chacun d'entre nous sera dans le repos éternel, dans sa présence, juste à le célébrer et à le magnifier. Mais pour l'instant, nous sommes sur la terre et nous ne pouvons pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Pour l'épanouissement de cette terre, il est incontournable que nous puissions associer notre intelligence et notre sagesse, n'est-ce pas, aux lois spirituelles que Dieu a préétablies. D'ailleurs, je vais vous dire ceci. Beaucoup de personnes qui ne sont même pas venues à l'église, mais qui à l'intérieur d'elles-mêmes étaient révoltées de ce que la vie qu'elles menaient n'était pas ce qu'elles devraient mener, ont poussé, ont recherché dans leur homme intérieur l'intelligence et la sagesse pour être à même d'améliorer le vécu, n'est-ce pas, quotidien des êtres humains sur la terre. La résultante de toutes les inventions, n'est-ce pas, vient du fait qu'il y a des hommes qui, il y a des hommes qui se sont levés et ont décidé de faire quelque chose pour leur génération. Et c'est comme ça que nous avons eu, n'est-ce pas, j'ai développé dimanche passé, l'amélioration au niveau du secteur du transport. Comment est-ce qu'il y a eu cette révolution totale? Je n'y reviendrai pas. Mais suivez-moi très bien. Toutes les lois, que ce soit la loi de la gravité, que ce soit la loi de l'aérodynamique, la loi de la pesanteur, toutes ces lois qui ont été découvertes n'ont pas été créées, mais elles ont été découvertes. On ne découvre que ce qui existe. Est-ce que vous me comprenez? Et vous savez, tout ce qui a été découvert n'est pas tout ce qui existe. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à découvrir. Et l'Église, pour ma part, ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer. L'Église est leader. L'Église devrait mener. L'Église devrait montrer l'exemple. Parce que nous sommes les seules créatures sur la terre qui ont en eux la sagesse et l'intelligence de Dieu. Mais je veux bien te dire que tu peux avoir quelque chose en toi et ne pas découvrir ce que tu as. Tu peux avoir quelque chose et ne pas découvrir. Découvrir son utilité, découvrir même son existence. Vous comprenez? Simplement parce que tu n'as pas découvert. C'est tout. D'ailleurs, numéro 1, je voudrais vous faire savoir comment reconnaître la voix du Saint-Esprit, numéro 1. Vous devez, premièrement, pour reconnaître la voix du Saint-Esprit, en numéro 1, reconnaître l'existence du Saint-Esprit. Vous devez reconnaître que le Saint-Esprit existe. Numéro 2, Vous devez reconnaître que le Saint-Esprit est venu sur la terre pour vous aider à mener une vie meilleure. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à mener une vie meilleure sur terre. Et c'est pour ça que dans Apocalypse 2, versets 7, 11, 17, 29, la Bible dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, vous savez, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et dans le schéma de Dieu, selon Romains 8, verset 14, la Bible dit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, Dieu veut que ses fils et ses filles soient conduits par son esprit. Pas conduits par une vision, pas conduits par une révélation, pas conduits par un songe, pas conduits par une prophétie, mais conduits par le Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons conduits par son esprit, par le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit est la lampe de Dieu dans notre esprit. C'est-à-dire, notre esprit est éclairé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur la terre pour apporter dans nos vies la conviction nécessaire à nos décisions. Il faut noter ça. Jean 16, verset 8. Le Saint-Esprit est venu sur la terre pour apporter dans nos vies la conviction nécessaire à nos décisions. Parce que ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Donc le Saint-Esprit est venu dans ta vie t'apporter la conviction nécessaire à tes décisions. Avant de prendre une décision, il est donc nécessaire de s'assurer que le Saint-Esprit valide cette décision par la conviction. Là, la conviction. Encore quoi là? La conviction. Encore quoi là? Conviction. Combien de fois il vous est arrivé de prendre une décision et de vous sentir mal à l'aise par rapport à la décision, mais de la prendre quand même dans l'objectif de plaire ou satisfaire les personnes qui sont juste en face de vous? À combien de personnes c'est déjà arrivé? À moi, ça m'arrivait avant. Mais gloire soit rendue à Dieu, j'ai été délivré de ces choses. Vous savez, la Bible dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Je ne serais donc pas un enfant de Dieu. Et n'est-ce pas faisant la plénitude de sa volonté? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut venir vous poser un bon problème? Quelque chose que vous posez, une situation qui paraît vraiment tellement compatissante ou attirante, et le Saint-Esprit vous dit, n'y allez pas. À qui c'est déjà arrivé? Et puis bon, vous vous dites, mais si je ne fais pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, si je ne fais pas, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais c'est exactement là le problème. Dieu veut que vous soyez à même d'être radicaux en telle, de telle enseigne que les décisions que vous prenez soient dans l'objectif premier de plaire à Dieu et de satisfaire le Saint-Esprit qui est avec vous. Pas les hommes, mais d'abord Dieu. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. D'abord Dieu, pas les hommes. Nous sommes dans une société où nous avons cultivé le m'as-tu vu. Oh, qu'est-ce que telle personne pense? Le show-up, la peau d'Ada, le fait de montrer aux autres. Non, il faut faire très attention. Il faut apprendre, si tu veux mener une vie stable, une vie qui mène un impact de réelle productivité, à marcher avec lui, le Saint-Esprit. Donc, il vient apporter la conviction nécessaire. Ensuite, le Saint-Esprit est la seule personne capable de t'amener à choisir au-delà de tout ce qui est apparent. Je peux reprendre pour toi? Le Saint-Esprit est la seule personne capable à t'amener à choisir au-delà de tout ce qui est apparent. Parce que la Bible dit, telle voix peut paraître juste à un homme, dans Proverbe 14, verset 12, mais l'issue de la voix, c'est la mort. Telle voix peut paraître juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. Combien de fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous prenons des décisions très apparentes, sans collaborer avec Dieu qui connaît le futur. Telle voix peut paraître correcte, mais au fond de la voix, la mort t'attend. Est-ce que chacun me comprend? Je prends l'exemple d'une femme, j'en parle la semaine prochaine d'ailleurs, comment choisir son conjoint, qui est face à trois hommes, tous bonne apparence, parlant tous en langue, venant à l'église à l'heure, garant chacune une belle voiture dehors, comme ce sont des critères aujourd'hui très exigés, ayant une situation apparemment très stable, et dont les trois personnes s'amènent. Donc, sur le critère biblique, les trois sont chrétiens. Tous sont convertis, tous sont engagés. Les trois se connaissent à la porte. Mais est-ce que vous savez que trois personnes remplissant tous les critères peuvent vous demander un mariage, tandis que vous avez prié pour le mariage, et que parmi les trois, il n'y a pas votre mari? Ah non, 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 tu sais pas de quoi je parle. Est-ce que tu sais que parmi les trois personnes qui viennent, il peut ne pas avoir ton mari parmi les trois? Et que tu dois être à même d'aller devant Dieu prier et rechercher la conviction que seul le Saint-Esprit est capable de produire dans ton cœur. Vous savez, si vous négligez cette conviction aujourd'hui, vous payez les conséquences demain, comme vous le vouliez ou non. Parce que Dieu connaît le futur dans le présent. Il est la seule personne capable de te conduire véritablement. Donc, ne faites pas les choix pour la satisfaction du présent. Mais faites les choix pour combler votre futur. Pas le présent, mais le futur. Est-ce qu'il vous est arrivé de prendre une décision étant opposé à cette voix intérieure, à cette chose à l'intérieur de vous-même qui vous disait de ne pas le faire? Et plus tard, vous vous rendez compte que vous avez échoué. Mais il y avait quelqu'un qui vous avait communiqué une sagesse que vous n'avez pas pu saisir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? À l'intérieur de vous, vous saviez qu'il ne fallait pas le faire. Mais vous l'avez quand même fait. Et souvent, sur votre propre intelligence, vous essayez de justifier la décision que vous prenez. C'est dangereux. C'est très dangereux. Reconnaître la voix du Saint-Esprit va t'empêcher beaucoup d'erreurs. Si tu réussis à reconnaître sa voix, tu vas avoir beaucoup d'erreurs qui seront évitées. Pourquoi? Parce que le discernement par excellence naît de la communion réelle que nous avons avec Dieu par le Saint-Esprit. Reconnaître sa voix va enrichir ta vie. Dis enrichir ma vie. Je dis bien, ça va enrichir ta vie. Dis encore enrichir ma vie. Vous savez, si vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit, votre vie sera enrichie. Elle sera riche. Tellement riche. Parce que vous avez appris à reconnaître sa voix. Ensuite, reconnaître sa voix peut changer radicalement et en un instant votre situation financière. J'ai dit radicalement et en un instant votre situation financière. Reconnaître la voix du Saint-Esprit peut aussi, au-dessus de tout, vous épargner plein de dangers. Parce que j'ai reconnu sa voix, il y a plein de dangers qui me sont épargnés sur mon chemin. Parce que je reconnais la voix du Saint-Esprit. Demande à ton voisin, est-ce que tu es sûr que tu es prête ou prêt à aller à une autre dimension avec Dieu? Pose la question à ton voisin. Repose la question à quelqu'un d'autre tout de suite. Pose la question. Est-ce que tu es sûr d'aller à une autre dimension avec le Seigneur? Alors réponds-moi maintenant, est-ce que tu es sûr d'aller à une autre dimension avec Dieu? Est-ce que tu veux aller à une autre dimension avec le Seigneur? Alors ça, c'est hyper important. Maintenant, regardez, je vous donne cette illustration. Vous avez trois tasses devant vous, trois tasses, ok? Dans une tasse, on y met un trésor. Dans les deux autres tasses, on y met des poisons. Et on te dit, ok, va choisir une de ces trois tasses. Quand tu y vas, tu n'as pas connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur des tasses. Tu ne sais pas ce qui s'y trouve. Qui est la personne qui pourra t'aider à choisir? C'est qui? Ah, n'oubliez pas que les hommes sont comme des vases. Est-ce que vous me comprenez? Et que à l'intérieur des hommes se trouvent des choses que personne n'est capable de vous instruire à ce sujet, si ce n'est le Saint-Esprit. Même les business que vous faites sont comme des vases. À l'intérieur peut se trouver des poisons mortels. La seule personne capable de vous diriger, c'est le Saint-Esprit. La seule personne capable de vous conduire. Répète un peu moi, Seigneur Jésus, le désir de mon cœur, c'est de marcher avec le Saint-Esprit. Je veux marcher avec lui parce que je sais que le Saint-Esprit est la seule personne capable d'épanouir ma vie comme je le désire au nom puissant de Jésus. Donc vous voyez que le Saint-Esprit est la seule personne capable de t'amener à choisir. Mais ce choix naît de quoi? Éphésiens 1, verset 17. Le choix que le Saint-Esprit nous donne de faire, il naît de quoi? D'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et l'apôtre Paul prie en disant, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre homme intérieur. Qu'il illumine les yeux de votre homme intérieur. Vous savez, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Quand je suis né, on a dit à... Et il y a une sœur à ma mère qui, aujourd'hui, elle est convertie. Elle a été baptisée récemment, je crois, il y a trois mois ou quatre mois, qui était voyante, qui était donc très amie à ma petite sœur, à ma mère, et qui était très amie à ma mère. Elle a dit à ma mère, cet enfant est né avec quatre yeux. Donc, il faut qu'on aille faire des pratiques pour fermer les deux autres yeux. Bon, en fait, vous savez, quand on dit il est né avec quatre yeux, donc... Les deux autres yeux, c'est des yeux de sorcellerie et tout. Et donc, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, les pratiques qu'ils ont faites n'ont pas été réelles. Parce que les deux autres yeux se sont ouverts. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment quatre yeux. Je n'en ai pas deux. Sérieusement, j'ai vraiment quatre yeux, je n'en ai pas deux. Donc, ne traite pas avec moi comme quelqu'un qui a deux yeux, j'en ai quatre. Est-ce que vous me comprenez? Je peux voir au-delà de la limitation physique. Je peux rester ici et voir quelque chose qui se passe aux États-Unis. J'ai des yeux qui sont plus perçants que ceux des sorciers. Je peux voir au-delà de la dimension présente. Pourquoi? Parce que j'ai des yeux de l'homme intérieur qui me permettent de voir au-delà de ce que mes yeux naturels peuvent voir. Mes yeux de l'esprit ne sont pas limités au monde physique. Ils transpercent le monde de l'esprit. Et ils permettent de voir au-delà de la personne, l'esprit qui l'anime. Ah non, je ne sais pas si tu as compris de quoi je parle. Je ne suis pas sûr que tu as compris. J'ai dit, j'ai quatre yeux. Et il y a deux autres qui fonctionnent. Sérieusement. Et qui me permettent de voir. Vous savez, quand vous avez ouvert les yeux de votre homme intérieur, quand Dieu a ouvert les yeux de votre esprit, vous devenez quelqu'un qui opère de façon surnaturelle dans le monde physique. Vous n'opérez plus jamais de façon naturelle. Vous opérez de façon surnaturelle. Et le surnaturel a ceci de fort. Il contrôle toujours le naturel. Le naturel est contrôlé par le surnaturel. Et si j'ai des yeux ouverts dans le surnaturel, je vois des choses que mes yeux naturels ne sont pas capables de voir. Il m'est arrivé de voir des gens qu'on me présente. En faisant de grands éloges de leur personne, comme ça m'est arrivé une fois, j'ai jamais oublié ça, une jeune dame toute belle, toute présentable. On me l'a présenté, qui chantait très bien, qui voulait donc diriger une cellule que j'animais dans une ville. Et donc elle est venue, à l'apparence, c'était vraiment la personne qu'il fallait. Et donc quand j'ai retourné mes yeux pour la regarder et qu'elle parlait, la langue s'est ouverte et les asticots étaient pleins dans sa bouche. Donc j'ai refermé les yeux. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu les asticots qui, non seulement c'était sur la langue, mais ça tombait de sa langue. Donc sa langue vomissait la pourriture. Et donc je regardais autour de moi et tout le monde la regardait de façon normale. Et elle faisait des bises en disant, donc elle faisait ça, je voyais les asticots qui se mattaient. Les... J'ai dit, waouh, est-ce que vous me comprenez? Et donc, et vraie histoire. Et donc, Dieu m'a permis, par les deux autres yeux, de voir qui elle était véritablement. Est-ce que vous me comprenez? Mais je n'en ai pas fait part. Je n'ai pas fait part de ça à ceux qui étaient autour de moi. Non, parce que Dieu me l'a montré uniquement pour m'aider à ne pas décider de la voir dans la louange. Pourquoi? Parce que même si elle chantait bien, elle allait communiquer à l'assemblée une vie d'impureté. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de voir des gens qui passent à côté de vous, mais moi, au-delà des yeux, j'ai souvent ressenti des gens qui passent et qui ont des odeurs. Ils sont parfumés, des parfums les plus somptueux. Mais quand ils passent, ils sentent mauvais. Comme si les excréments avaient imbibé leur homme extérieur. Et Dieu te permet de le ressentir. Si tu savais que tu as une odeur que tu dégages, et que des hommes spirituels peuvent sentir quand tu passes, tu ferais attention à l'odeur que tu dégages, spirituellement parlant. Vous pensez, à mon avis, à votre avis, quel est le résultat de la faveur? Qu'est-ce qui fait que tu entres quelque part et tout le monde t'aime? Les gens ont envie de te saluer, tout le monde est content. Les hommes comme les femmes. Mais attends, ce n'est jamais tes beaux yeux? Non. Ce n'est jamais ta belle tenue? Non. C'est ce que tu dégages quand tu apparais. Est-ce que vous me comprenez? Et je vais vous dire une chose, vous devez apprendre à développer cette chose dans votre vie de prière, dans votre relation avec Dieu, développer cette vie qui n'apparaît que pour ceux qui ont une dimension surnaturelle. Une dernière, récemment, une dame est venue me voir ici et j'ai prié pour elle. Et ensuite, quelqu'un est venu la voir et puis on l'a amenée dans un coin reculé d'un quartier de la ville et pour aller rencontrer un homme de Dieu, en griffe. Et donc, ils sont arrivés là-bas, et dès qu'elle est arrivée, on devait prier pour elle. Quand l'homme de Dieu l'a regardé, l'homme de Dieu a refusé de prier pour elle. Il dit, repasse le lendemain. Tout ça ne m'a pas raconté. Le lendemain, elle repart. L'homme de Dieu prie pour tout le monde. À son tour, il dit, repasse encore. Elle revient. La troisième fois, il a confié à ses assistants, les prophétesses, qui sont là. Quand tu apparais, on te donne la prophétie de Dieu. Voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu dit. Et donc, quand les prophétesses ont vu sa croix qu'elle avait sur le cou, elles lui ont dit, simplement, une croix normale, que cette chose-là n'est pas bien dans la présence de Dieu. Ils ont appelé la croix. Cette chose-là n'est pas bien dans la présence de Dieu. Ma sœur, dorénavant, quand tu viens ici, enlève ta croix. Dieu n'aime pas qu'on porte la croix dans sa présence. Elle est rentrée chez elle, elle a enlevé la croix. Et après, pendant qu'elle était couchée, une voix lui dit, mais comment est-ce que, dans ma présence, la croix peut déranger alors que c'est sur une croix que je suis mort? Et donc, ça commence à troubler son homme intérieur, c'est là où elle me contacte. Et j'aime mon ministère, vous savez, le ministère de pasteur est assez spécial. Les gens vous contactent quand ça va mal, et quand ça commence à bien aller, ils vous oublient, et quand ça revient mal, ils reviennent. Mais il n'y a pas de problème. Ok? Dis à ton voisin, il n'y a pas de problème. Ok? Oh, dis à ton... Et tu dis, ah, il n'y a pas de problème. C'est que ça te concerne alors. Amen. Amen. Au lieu de dire à ton voisin, ça ne me concerne pas, tu dis, il n'y a pas de problème. Ok, donc, quand elle m'a parlé de la situation, je lui ai dit, c'est clair, tu as un signal indicateur que tu es dans un endroit qui n'est pas correct. Mais pourquoi est-ce que l'homme n'a pas pu prier pour elle? Qui sait pourquoi? Parce que c'était une enfant de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'elle avait une alliance avec Jésus. Parce qu'il y avait des prières qui avaient enrobé sa destinée. Parce qu'elle avait été recommandée à la grâce. Et quand elle est arrivée dans cet endroit, l'homme n'a pas pu prier pour elle. Vous savez, je vous dis une chose. Il y a quelque chose de grand qui entoure votre vie et votre destinée. Souvent même, vous ne le réalisez pas. Ok? Donc, marcher avec le Saint-Esprit est quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est par révélation que nous avons, c'est par la loi de la révélation que j'arrive à reconnaître. C'est quand j'ai la révélation que je reconnais. Si Dieu ne s'est pas révélé à moi, dans mon esprit, je ne reconnais pas. Il ne faut jamais reconnaître à l'apparence. Il faut toujours reconnaître par révélation. Ne reconnaissez pas un homme de Dieu parce qu'il est en costume. Non, Jean-Baptiste n'était pas en costume. Il était habillé en peau de chameau, mais il était un grand prophète. Ne reconnaissez pas un homme de Dieu simplement parce qu'il jeûne tous les jours. Jésus mangeait et buvait, mais il était le plus grand prophète. Est-ce que vous me comprenez? Chaque apparence d'un homme de Dieu est aussi fonction du type d'appel auquel il est confronté dans le royaume de Dieu. Donc nous n'avons pas tous la même apparence, nous n'avons pas tous le même ministère, nous ne ferons jamais de la même façon à cause de notre identité spirituelle qui est différente. Parce que vous devez comprendre que même le packaging, l'enveloppe, l'apparence a quelque chose à voir avec ce qui est à l'intérieur. Je parlerai de la loi de l'apparence dans un autre enseignement. L'apparence. Donc c'est par révélation que j'arrive à reconnaître. Ensuite, c'est quand j'arrive à reconnaître quelque chose, c'est par la loi de la reconnaissance que je découvre. Donc par révélation, je reconnais. Et quand j'ai reconnu quelque chose, je découvre. C'est quand tu as reconnu que ce que tu as trouvé sous ta maison était de l'or, qu'on dirait tu as découvert de l'or. Si tu n'as pas reconnu que c'était de l'or, tu ne découvres pas. C'est quand tu as reconnu que tu découvres. Pour découvrir son appel, il faut le reconnaître. C'est quand on a reconnu qu'on découvre. Et c'est quand on a découvert qu'ensuite, on passe à l'identification. C'est quand j'ai découvert que j'identifie. Parce qu'on te posera la question, qu'est-ce qui est découvert? Tu diras, de l'or. Tu l'as identifié parce que tu l'as découvert. Ça va pour chacun d'entre nous? Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Donc, c'est important. Maintenant, cinq choses que fera le Saint-Esprit quand il sera avec nous. Cinq choses qu'il va faire. Numéro un. Le Saint-Esprit t'apprendra à reconnaître une opportunité divine. Dis après moi, opportunité divine. Encore, opportunité divine. Vous devez savoir que dans votre vie de tous les jours, Dieu place au-devant de vous des opportunités. Dieu met au-devant de vous des opportunités qui sont divines. Et ces opportunités seront le canal de votre élévation. Mais le Saint-Esprit lui-même, lui seul, te permettra de reconnaître une opportunité qui vient de Dieu. Une opportunité divine. Seul, le Saint-Esprit te donnait de le reconnaître. Je vous donne une illustration. Un jour, je sors d'un voyage. Je vous expliquerai le voyage plus tard. Et donc, j'atterris, on m'appelle. Homme de Dieu, il y a une affaire, il faut que tu investisses, il faut que tu fasses ci. Je vais vous dire une chose, j'étais hyper braqué. Je me suis braqué pendant un mois. Et un jour, je suis assis dans un endroit public. Et l'homme qui était rattaché à l'affaire passe. Le Saint-Esprit me dit, appelle-le, conclue cette affaire avec lui. Est-ce que vous me comprenez? Un mois plus tard, seul, en train de manger, il passe. Le Saint-Esprit me dit, appelle-le. Conclue cette affaire avec lui, elle vient de moi. Pendant un mois, personne d'autre n'a pu conclure cette affaire. Dieu l'a gardée parce qu'elle était mienne. Et je n'ai pas voulu la faire parce que je n'avais pas reconnu en cette affaire une opportunité de Dieu. Rien à l'apparence pouvait laisser transparaître que cette affaire était juteuse. Dieu m'a dit, conclue. Quand j'ai entendu la voix, j'ai appelé l'homme, j'ai dit, ok, viens, voici, je t'ai vu passer, reparle-moi de ton affaire. Et pour raccourcir le témoignage, nous avons conclu l'affaire. Quelques années plus tard, je vais découvrir que cette opportunité que Dieu avait placée au-devant de moi me fera gagner des centaines de millions sans effort. Pourquoi? À cause d'une opportunité divine que j'ai reconnue. Et je vais pas vous dire, si vous développez dans votre prière, disant Dieu, aide-moi à reconnaître une opportunité qui vient de toi, il y a plein de choses que vous allez faire dans votre vie. Je vous dis, plein de choses que vous ferez simplement parce que vous avez reconnu l'opportunité. Beaucoup d'entre nous, nous avons laissé passer des fortunes devant nous. Paf, elles sont parties. Oh Dieu, bénis-moi, donne-moi là. Quelqu'un est venu devant toi, il s'est baladé. Tu as regardé sa tête, tu as regardé ses cheveux, tu l'as vu. Tu as dit, ses habits sont beaux. Voilà, et tout. Mais tu n'as même pas reconnu que la personne qui se baladait devant toi était une opportunité que Dieu avait placée devant toi pour changer ta destinée. Le Saint-Esprit te fera reconnaître les opportunités qui viennent de lui. Numéro 2. Le Saint-Esprit te fera reconnaître une idée qui vient de Dieu. Quand une idée vient de Dieu, il vous est déjà arrivé d'avoir des idées. Il y a de bonnes idées, il y a des idées de Dieu. Mais le Saint-Esprit te fera reconnaître l'idée qui vient de Dieu. L'idée divine. Il y a des idées qui viennent du fait que j'ai vu quelqu'un faire. Je l'ai vu faire et puis je suis chez moi et l'idée vient et je pense à faire la même chose. Ce n'est pas une idée de Dieu. C'est une idée d'imitation, une idée qui t'amène à être comme. Ce n'est pas de ça que je parle. Maintenant, il y a des idées qui naissent de Dieu. Ça ne vient de nulle part ailleurs que de son trône. Ça vient de Dieu. Numéro 3. Le Saint-Esprit te fera reconnaître le moment de ton miracle. Oh, j'aime ça. Il te fera reconnaître le moment de ton miracle. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments de ton miracle? Des moments où Dieu a décidé de faire un miracle. Un jour, j'étais là, d'ailleurs, la dame s'est mariée samedi vendredi passé. Et j'étais ici à l'église. On a prêché, je suis sorti. Et une dame court, j'ai aimé ce témoignage. Elle vient vers moi toute tremblante. Elle dit, révérend, pose ta main sur mon ventre, j'aurai un enfant. Je la regarde, je pose la main sur le ventre, sa foi était tellement grande. Je relâche les paroles, j'ai dit le mois prochain, à la même époque, tu seras enceinte. Le mois prochain, elle vient avec le ventre. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser qui était devant moi. Et après, je lui pose la question, je dis, mais tu es enceinte? Oui. Parce qu'elle est venue me dire, j'ai dit, tu es mariée? Non. Mais je dis, mais comment est-ce que ces choses-là ont été possibles? Parce que dans ma conviction présente, je n'aurais pas prié si je m'étais rappelé qu'elle n'était pas mariée. Mais elle a su que c'était l'heure de son miracle. Et elle était enceinte. Et je vais vous dire, Dieu agit de façon incroyable. Plus tard, la fille enceinte m'appelle, pasteur, je vais me marier. Je veux que tu sois à mon mariage. Et donc, quand je raccroche, le Saint-Esprit me dit, quand je commence une œuvre, je l'achève. Est-ce que vous me comprenez? Je l'achève. Elle a reconnu le moment de son miracle et elle s'y est approchée avec foi. Et elle a reçu. Est-ce que vous savez souvent, nous sommes ici à l'église. Pendant que le message passe, Dieu te parle. Tu entends dans ton cœur une action précise que tu dois faire. Quelque chose te monte à cœur. Mais tu laisses le temps passer. Ça vous est déjà arrivé? Et plus tard, tu oublies ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais tu es passé à côté d'un miracle. Parce que le miracle commence par l'instruction. Et c'est le Saint-Esprit qui te le donne. La femme qui perdait le sang, elle a vu Jésus passer. Elle dit, maître. Donc, elle a foncé vers lui. En criant impur, elle a touché son vêtement. Et elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a reconnu que c'était son heure. Son miracle était pour ce moment précis. Elle est allée toucher le vêtement du Seigneur. Et elle a été guérie. Parce qu'elle a reconnu que c'était l'heure de son miracle. Qui a prêché à la femme? Personne. Qui a dit à la femme, tu seras guérie? Personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme a reconnu que c'était l'heure de son miracle et elle a été guérie. Ensuite, vous devez reconnaître dans votre vie en numéro 5, numéro 4, ok, reconnaître le jour de ta visitation, le jour où Dieu te rend visite, le jour de ta visitation. Vous devez reconnaître le jour de la visitation. Je suis certain que plusieurs d'entre vous, à des moments, vous dites, je sens une forte envie de prier, je sens vraiment l'envie de prier. Et ce jour-là, vous ne faites même pas l'effort de prier comme Dieu le demande. Mais vous ratez le... Parce que Dieu décide de te rendre visite. C'est-à-dire ce jour-là. Ce n'est pas que tu as provoqué sa présence. Il dit, je vais rendre visite à ma fille. Je viens chez elle. Je vais passer du temps avec elle. Et il te dit, je suis là. Il t'a rendu visite. Mais tu négliges sa présence. Mais quand tu ne... ce que tu n'as pas reconnu et respecté se retire de ta vie. Comme tu ne reconnais pas sa présence... Paf, ça se retire. C'est pourquoi vous devez être intelligent. Vous devez reconnaître le temps de votre visitation. Quand est-ce que Dieu te rend visite? Quand est-ce qu'il te rend visite? Abraham a reconnu l'heure de la visitation. Comment est-ce qu'il a reconnu? Les trois anges, quand ils sont arrivés chez Abraham, Abraham dit à sa femme, nous ne pouvons pas les laisser partir comme ça. Va tuer un chevreau et fais à manger. Pourquoi? Parce que Abraham a su que ces trois hommes incarnaient Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Il a reconnu le temps de la visitation. Vous devez apprendre à reconnaître. Quand est-ce que Dieu vous rend visite? Quand est-ce qu'il y a une visitation? En cinquième point, reconnaître le moment de déployer une foi exceptionnelle. Le moment où Dieu veut que tu déploies une foi exceptionnelle. Tu dois le reconnaître. Vous savez, quand le moment de déployer une foi exceptionnelle arrive, le Saint-Esprit le crée. Je suis allé voir un homme de Dieu qui prêche. Et pendant que je suis assis, Dieu m'a dit, sème 10 000 dollars dans sa vie. Vous savez que j'ai écouté et je savais que c'était Dieu. Mais qu'est-ce qui se passait? C'était le moment de relâcher une foi exceptionnelle. Parce que donner est un acte de foi. Donner abondamment est une foi exceptionnelle que je relâche. Donc, je devais relâcher ma foi. Je l'ai reconnue. Et plus tard, l'affaire dont je vous parle, l'opportunité dont je parlais se produise. Pourquoi? Parce que j'avais reconnu le moment de relâcher une foi exceptionnelle. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez apprendre à reconnaître ces choses. Maintenant, suivez-moi bien. Pour clôturer, quand vous connaissez le Saint-Esprit, 2 Chroniques 20, verset 20, la Bible dit quoi? Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis et à ses prophètes et vous réussirez. Vous ne pouvez pas avoir de la révérence pour le Saint-Esprit et le mépris pour ses serviteurs. C'est pas possible. Parce que ses serviteurs ont été mis à part par lui, ou un par lui, sont inspirés par lui, parce que c'est par inspiré du Saint-Esprit que les prophètes ont parlé. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu que les serviteurs de Dieu rendent au ministère. Vous savez, quand vous avez reconnu l'onction de Dieu sur la vie d'un homme de Dieu, reconnu le ministère particulier que Dieu a déposé sur un serviteur, Dieu vous rend ministère au travers de la reconnaissance que vous avez eue. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous savez, ce que le diable va faire, et j'ai compris avec le temps, quand Dieu vous a oint, quand Dieu vous a déposé une onction particulière, parce que vous devez apprendre à reconnaître ça, parce que Dieu a appelé ses serviteurs, vous avez la révérence pour eux, vous les respectez. Ce sont les saints dons qui sont appelés à vous amener à la maturité. Mais parmi les hommes de Dieu que Dieu a appelés, les hommes appelés par Dieu, il existe des catégories rares. Je dis bien rare. Dis après moi rare. Vous allez comprendre pourquoi c'est rare. Encore rare. Il existe une rare catégorie parmi les appelés de Dieu qui sont appelés à être des libérateurs de votre abondance. Tous les hommes de Dieu ne sont pas appelés à cette fonction. Alors, un homme de Dieu pose la question de savoir, mais oui, pourquoi si, pourquoi? Non, on n'a pas tous les mêmes rôles. Les yeux voient. Vous n'allez pas demander aux yeux de manger. La bouche parle. Jamais les oreilles ne le feront. Les oreilles entendent. Jamais les pieds ne le feront. Les pieds marchent. Jamais les bras ne le feront. Les bras possèdent. Jamais la tête ne fera la même chose. La tête pense. Et jamais les fesses ne feront ça. Les fesses s'asseyent. Jamais le ventre ne le fera. Le ventre reçoit de la nourriture. Et jamais la gorge ne le fera. La gorge fait transiter la nourriture, mais jamais la langue ne le fera. La langue goûte la nourriture, mais jamais les cheveux ne le font. Les cheveux sont coupés pour être jetés, mais jamais les ongles ne font la même chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous avons tous dans le corps une fonction spéciale. Mais parmi les hommes de Dieu, il y en a, et là je commence à parler maintenant, il y en a ceux qui sont appelés par Dieu pour vous libérer votre abondance. Vous devez être à même de les reconnaître. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tous ceux qui sont passés après moi ou avant moi étaient des mercenaires et des voleurs. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Je suis venu afin que mes brebis aient la et qu'elle ait la vie et qu'elle ait même avec abondance. Il y a des hommes de Dieu qui viennent dans votre vie pour vous amener à posséder l'abondance que le ciel vous a réservée. Mais vous devez les reconnaître. Je vais vous donner leurs caractéristiques. Vous êtes prêts? Oh, la terre va trembler sous tes pieds. Je dis, je veux te donner les caractéristiques de ces hommes. Tu es prêt? Numéro 1. Les libérateurs d'abondance sont généralement très combattus par les gens, même pas les autres hommes de Dieu, parce qu'ils ne sont jamais ordinaires. Ils sont très combattus par les gens, même par les autres hommes de Dieu, parce qu'ils ne sont jamais ordinaires. Numéro 2. Numéro 1, j'ai dit numéro 1. Les libérateurs d'abondance sont généralement très combattus par les gens, même par les autres hommes de Dieu, parce que ce ne sont pas des hommes ordinaires. Numéro 2. On les accuse de parler d'abondance, de richesse, de prospérité. Ils sont très accusés. Oui, mais lui, c'est toujours la richesse, l'abondance, la gloire, l'épanouissement, le bonheur. Et je disais à quelqu'un, mais que veux-tu que je dise d'autre? La misère, je ne connais pas. Ce n'est pas ce que Dieu me montre. Non, vous savez, vous ne pouvez parler que de ce qu'il y a dans votre cœur, de l'abondance de votre cœur, la bouche parle. Il faut relâcher le message et le mandat que Dieu t'a confié. Numéro 3. Ils ont une foi exceptionnelle et spéciale. Quand vous arrivez devant le libérateur d'abondance, sa foi est exceptionnelle. Pendant que vous parlez de vos problèmes, lui, il vous confesse la solution. Et vous savez, ça peut vous énerver parce qu'un libérateur d'abondance semble ne pas être intéressé par les problèmes que vous avez. Est-ce que vous me comprenez? Vous venez devant lui, oui, homme de Dieu, voilà le problème que j'ai. Le libérateur d'abondance, lui, quand il te regarde, il a perçu la solution. Le quatrième, les deux autres yeux se sont ouverts. Et quand il t'a vu, il ne voit pas le problème. Il commence à parler le langage de la solution. Donc c'est ça le libérateur d'abondance. Il parle le langage de la solution. Maintenant, le futur point, 5 ou 6, selon que vous avez noté, écoutez-moi bien. Le libérateur d'abondance, quand il passe dans votre vie, il change la vision que vous aviez de votre propre vie. Vous commencez à voir votre vie de façon différente. Il vous amène à un autre niveau de la vision de votre destinée. Vous vous voyez directeur, il vous montre PDG des multinationales. Vous voyez un enfant, il vous montre des générations. Vous parlez de la semence, il vous montre des plantations. Le libérateur d'abondance parle le langage de l'abondance. Numéro 6. Bon, selon que vous notez. Hein. Ils sont dotés d'une audace d'un courage exceptionnel. Ce sont des personnes audacieuses et courageuses de façon exceptionnelle. Numéro 7, aussi selon votre façon de noter, le langage de la peur n'est pas assimilé à leurs paroles. Ils ne parlent pas le langage de la peur. Ils ne parlent pas le langage de la peur. Pouvez-vous retrouver numéro 7? Il vous donnera l'impression de n'avoir pas de compassion. Ah, il vous donnera l'impression de n'avoir pas... Vous savez, quand Élie arrive chez la veuve de Sarepta, qui est dans son dernier repas, le fils avait maigri. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle avait déjà perdu du poids. Elle était déjà amaigrie par la famine. Quand il arrive chez elle, il ne dit pas, « Oh, ma sœur, regarde comment tu as maigri, oh Seigneur, prends pitié. » Non, et il dit, « Fais-moi abord à manger. » Mais on dirait, « Mais c'est pas vrai. Comment est-ce que ce gars est tellement intéressé par les choses qu'il doit manger ? Il ne voit pas que la femme meurt. » Non, le libérateur d'abondance ne voit jamais les problèmes parce qu'il apporte toujours la solution quand face au problème. Il donne l'impression de n'avoir pas de compassion. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je continue. Il fera naître en toi, le numérateur d'abondance, une foi qui va terrasser le doute qui avait paralysé ton miracle. Quand le libérateur de l'abondance arrive, il t'injecte la foi qui va terrasser le doute. Le doute se met à genoux. Le doute qui avait paralysé ton miracle est à genoux. Point numéro... Très bien. Point numéro 9. Suivez attentivement. Il parle le langage de la victoire et non de l'échec. Il parle le langage de la victoire et non de l'échec. Numéro 10. Numéro... Ça va? Vous voulez que j'attende un peu? Le CD sera disponible tout de suite après le message. Langage numéro 10. Point numéro 10. Il amène tes ennemis à trembler devant toi. C'est-à-dire, quand tu es en sa présence, tes propres ennemis commencent à trembler. Quand la présence d'un libérateur d'abondance est là, tes ennemis commencent à trembler. Numéro 11. Il te dépeint un avenir différent de ton passé obscur. Il te dépeint un avenir différent de ton passé obscur. Numéro 12. Il t'amène à activer la loi qui est la clé qui ouvrira les portes pour toi et non t'amener à raviver des souvenirs douloureux. Le libérateur de la foi, de l'abondance, va t'amener à activer la clé, c'est-à-dire la clé, la loi qui est la clé qui va, n'est-ce pas, décanter la situation et non venir raviver tes souvenirs douloureux. Il vous est arrivé d'être avec les gens et puis vous rappelle les mauvaises choses qui vous étaient arrivées. Oh mon frère, j'ai compassion, voilà, vraiment, j'ai appris ce qui t'était passé. Ce n'est pas son langage. Quand il vient, il ravive la foi. Il te donne la clé pour une porte qui t'amène dans une autre dimension. Et non pleurer sur les souvenirs, douloureux. Dis à ton voisin, oublie ton passé. Encore, oublie ton passé. Point numéro 13. Il te fait tirer en train sur ton passé. Il te fait tirer en train sur ton passé. Point numéro 14. Il t'amène à avoir une plus grande confiance en Dieu. Il t'amène à avoir une plus grande confiance en Dieu. Et en conclusion, le point numéro 15 qui a deux volets, c'est la conclusion. Suivez-moi bien. Quand le prophète Élisée est arrivé chez la femme de l'homme la femme veuve de l'homme craignant Dieu, cette femme était dans une situation catastrophique. La femme n'avait pas de moyens. Elle était tellement pauvre. Et plus tard, nous voyons la même onction d'Élisée arriver chez la femme riche, la Tsunamite, qui a construit une chambre pour Élisée. Quand l'onction qui va décanter l'abondance te rend visite, généralement j'ai observé deux choses. Les pauvres sont tellement pauvres qu'ils ne voient pas la provision qu'il y a autour d'eux. Et les riches sont tellement riches qu'ils ne voient plus leurs besoins. Mais quand l'onction là arrive, ça révèle les deux. Je ne sais pas si tu m'as compris. La pauvre était tellement pauvre qu'elle n'a pas vu qu'elle avait de l'huile qui pouvait décanter une situation. La riche était tellement riche que quand Élisée lui a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Elle dit « Non, je suis une femme qui a tout ce que je veux. » Mais elle avait oublié qu'elle avait besoin d'un enfant. Mais c'est l'onction d'Élisée qui a rappelé à la femme qu'elle avait en besoin. Il y a des gens qui sont tellement riches, tellement élevés dans la chair qu'ils oublient qu'ils ont un besoin fondamental. Ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de Christ. Mais quand ils arrivent en face d'une onction qui libère l'abondance, cette onction révèle leurs besoins. Il y a des gens qui sont tellement pauvres qu'ils ne savent pas qu'ils ont tout ce qu'il faut à côté d'eux pour libérer leur abondance. Que Dieu te garde. On va prier. Lève-toi, nous allons prier. Est-ce que tu as appris quelque chose ce matin? Lève-toi, on va prier ce matin. Pose ta main sur ton cœur rapidement, s'il te plaît. Pro chanderebo satarababa. Pro kosatere ndere kosotoro bosete. Répète après moi, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, ce matin, au devant de ton trône, le désir de mon âme, c'est de faire ta volonté. Rends-moi sensible à ta voix, à la voix du Saint-Esprit. Je veux marcher dans une autre dimension de la révélation, de la connaissance, de la sagesse, du bonheur, de la joie et de la paix. Je veux te plaire, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'aider à reconnaître les libérateurs d'abondance que tu as placés au devant de ma vie. Aide-moi à reconnaître et à respecter les dons, les talents que tu as investis dans la vie des autres personnes. Je renonce à la jalousie. Je renonce à la haine. Je déclare, je prends l'engagement de valoriser ce que les autres ont de plus que moi. Car je sais que nous sommes différents. Mais Seigneur, je révèle à l'humanité les talents et les dons dans ma vie que moi-même j'ai découvert, que j'ai reconnu, que j'ai identifié. Merci Seigneur pour ta puissance agissante à mon égard de façon réelle, de façon victorieuse. Au nom de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui, par tes lois, ma vie ne sera plus jamais la même. Éternel Dieu, le Saint-Esprit m'aidera à aller dans la dimension de la révélation. Et la révélation m'aidera à aller à la dimension de la reconnaissance. Et la reconnaissance m'aidera à aller à la dimension de la découverte. Et la découverte m'aidera à aller à la dimension de l'identification. Et l'identification, Seigneur, amènera ma vie à être valorisée, respectée, honorée et bénie par ta puissance et ton pouvoir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.